Nona Meyer, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais que nous parlions des phénomènes racistes et antisémites sous l'angle de leurs différentes modalités d'expression et plus particulièrement de certaines d'entre elles. Il peut y avoir de la discrimination, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir de la ségrégation. Et puis il y a aussi des opinions, des rumeurs, des stéréotypes, tout un ensemble de questions que tu as souvent étudiées. Est-ce que tu peux nous indiquer de quoi il s'agit, d'abord, et comment on peut les étudier? Quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser?
En fait, tout cela tourne autour de la notion de racisme, c'est-à-dire la tendance à attribuer à un groupe ou à un individu des traits figés et négatifs. Et il peut s'exprimer sous diverses formes. On peut le trouver dans les discours officiels, on peut le trouver dans les médias, on peut le trouver dans les conversations au café, et puis on peut le solliciter en posant des questions dans les sondages ou en faisant des entretiens. Et tout cela nous montre que nous avons tous des opinions. Nous raisonnons tous par catégorie, on ne refait pas le monde tous les jours, on a des stéréotypes, des idées reçues, et quand elles sont négatives, quand elles touchent à des groupes ou aux personnes qui appartiennent à des groupes, elles se rigidifient, elles deviennent un obstacle aux relations normales avec l'autre. On va accepter des idées reçues, du genre les juifs ont un rapport particulier à l'argent, les roms sont voleurs, et tout ce genre de choses, je peux le mettre sous l'étiquette de racisme. Alors on peut travailler sur le racisme de diverses manières. Moi j'ai beaucoup travaillé à partir des opinions, c'est-à-dire ce qu'on pense des minorités, des autres. Et plutôt que le terme de racisme, j'aime mieux le terme qu'utilisent les anthropologues, celui de ethnocentrisme. C'est l'idée qu'on se replie sur son groupe d'appartenance. Nous, eux. Nous, c'est bien. Eux, c'est mal, ou en tout cas, c'est différent. Et ce qui est intéressant, c'est que le racisme dans les sociétés démocratiques, ses formes d'expression ont changé. Il y a eu le traumatisme de la Shoah après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée que c'est très dangereux, que le racisme, et là il s'agissait véritablement de racisme avec une hiérarchie des races et l'idée qu'il y avait des races inférieures, peut conduire à la mort. Donc la norme dans nos démocraties est devenue l'antiracisme. Et le racisme s'exprime autrement. Il y a très peu de gens en France aujourd'hui qui pensent qu'il y a une hiérarchie des races. Hein, on en est à 10%. Mais le racisme n'a pas disparu pour autant, c'est-à-dire la tentation d'attribuer à un groupe ou à un individu, parce qu'il appartient à un groupe, des traits négatifs. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à partir de sondages d'opinion qui nous permettent de voir à partir d'un échantillon national représentatif de la population vivant en France, quelles opinions nous avons envers les minorités, quelles sont les barrières qui nous séparent.
Est-ce que tu peux être plus précise par conséquent sur ces sondages et ces techniques ou ces méthodes de recherche, de façon à ce qu'on en ait bien l'image la plus précise possible et qu'on en perçoive à la fois l'apport et peut-être aussi les limites?
Absolument, parce qu'ils ont leurs inconvénients et leurs avantages. Je m'appuierai beaucoup sur le sondage annuel qui est fait depuis 1990 pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est sa mission officielle, elle doit rendre un rapport tous les ans sur l'état du racisme en France. Et donc, nous avons ce sondage en face à face sur un échantillon d'un millier de personnes, toute personne âgée de 18 ans et plus, résidant en France, quelle que soit sa nationalité. Et c'est intéressant de savoir que dans cet échantillon national, on a presque un tiers de personnes qui ont un parent ou un grand-parent issu de l'immigration. La France est une société multiculturelle. Et l'avantage de ce sondage, c'est qu'il pose plein de questions sur toutes les minorités, leurs droits, l'image que nous en avons, qu'ils soient roms, juifs, asiatiques ou tout simplement l'autre, l'étranger. Il y a une phrase, avez-vous le sentiment qu'en France, aujourd'hui, on ne se sent plus chez soi comme avant? Donc il y a à la fois des choses très générales et des choses très spécifique. À partir de ça, on peut faire, c'est Vincent Tibéry, un chercheur collègue, qui l'a fait, un indice longitudinal de tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on reprend les 69 séries de questions qui ont été posées au moins 3 fois depuis 1990. Parce qu'une réponse à une question de sondage, ça ne veut rien dire. Hein. Donc là, on en a 69. Et ça nous permet de voir les variations du racisme à travers le temps. Ça va de zéro si tout le monde était intolérant à toutes les questions, à 100 s'il donnait toujours la réponse tolérante. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est à 64 sur 100. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet indice, il monte et il descend à travers le temps. Il y a des périodes, des grandes bouffées de tolérance, par exemple après la Coupe du monde de football. Là, il y a eu un grand moment d'émotion, de solidarité, et on le voit dans notre sondage. Et puis, en période de crise économique et de récession, comme celle de 2008, ça a tendance à baisser parce que la tendance est de faire de l'autre le bouc émissaire, mais surtout, ça dépend du cadrage de la classe politique. L'exemple vient d'en haut. Dans les années 90, quand Jacques Chirac parle du bruit et de l'odeur des familles d'immigrés, quand Valéry Giscard d'Estaing parle d'invasion, ou bien pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a mis l'immigration, l'islam au cœur du débat politique, là on voit un net recul de la tolérance.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire le contraire, à savoir que le chef d'État ou telle personnalité politique s'exprime avec des expressions peu tolérantes parce qu'il sent que la société est devenue moins tolérante?
Il y a peut-être une interaction, hein, mais on constate quand même qu'il y a une... ça marche plutôt la causalité dans ce sens-là. Quand on fait des entretiens, on voit que la parole publique, la parole des élites, légitime ou ne légitime pas la tolérance à l'égard d'autrui. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche.
Est-ce que tu peux être plus précis sur ce qu'est un sondage? C'est-à-dire, on interroge combien de personnes? Quel type de questions? Et surtout, qu'est-ce qui prouve que les questions vont permettre d'obtenir des réponses justes? Moi, si on me dit... imaginons que je sois antisémite. Mmh. Et que je vis en France et que je sais que c'est très mal d'être antisémite. Si on me dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des juifs? Oh là là, je me dirais là, prudence. Et je dirais, je n'en pense rien. Bon, autrement dit, qu'est-ce qui prouve que le sondage d'opinion enregistre vraiment les opinions et pas simplement ce que la personne interrogée se croit autorisée à dire dans un pays où certaines choses ne se disent pas?
Il y a bien sûr une norme, et c'est important qu'il y ait une norme. Dans les années 30, la norme de tolérance était beaucoup moins forte, et notamment au domaine d'antisémitisme. Déjà savoir et intérioriser le fait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, c'est déjà un progrès. Mais effectivement, aucun sondage n'est parfait, et on ne dira pas la même chose d'un jour à l'autre, selon la manière dont les questions sont posées, selon l'ordre des questions dans le questionnaire. Ce sondage est quand même intéressant parce qu'on peut dire que c'est les mêmes biais à travers le temps. C'est-à-dire, on est en face à face, on est face à un enquêteur ou une enquêtrice chez soi, on prend le temps de répondre, ça dure une bonne demi-heure, sinon plutôt trois quarts d'heure. Il y a énormément de questions, dont certaines sont très claires, on vous demande votre jugement sur les minorités, d'autres beaucoup plus générales, comme on ne se sent plus chez soi comme avant. Et le fait que la réponse à une question, tu as tout à fait raison, ne veut absolument rien dire. Ce que nous cherchons, c'est la cohérence des réponses. Et c'est ça qui est intéressant. Souvent, les sondages, on se contente de la moyenne. 26% ou 50% des Français pensent que ça ne veut rien dire. Il faut cuisiner, il faut travailler avec ces données. Il faut voir les clivages qu'il y a à l'intérieur de la population étudiée. Et là, on commence à faire parler les sondages. Donc, il faut plusieurs sondages à travers le temps, c'est le cas de ce baromètre. Il faut regarder à l'intérieur si c'est la même chose par âge, sexe, diplôme, et ça ne l'est pas. On constate par exemple en France, depuis 1990, quelle que soit la période et quelle que soit la question, plus on est à droite, plus on a tendance à donner une réponse intolérante. Et c'est à l'extrême droite et du côté des proches du Front National que le record d'intolérance est atteint, et à gauche, le minimum d'intolérance. Donc il faut prendre compte de tous ces paramètres et puis il faut tester avec d'autres méthodes. Un sondage, il faut le compléter avec des entretiens non directifs dans lesquels on laisse la personne parler, des photos projectives. Au lieu de verbaliser, on lui demande simplement de réagir à des photos où il y a des contrastes et en panachant, tout simplement aussi en faisant de l'observation participante, suivre les interactions dans une école, une cour de récréation, dans un café. Et c'est uniquement en combinant toutes ces méthodes qu'on a une idée des opinions. Il y a autre chose d'ailleurs qu'il faudrait dire, il n'y a pas que les opinions. On peut très bien dire, moi je pense qu'on exagère le rejet des immigrés, moi je suis pour une société ouverte, tolérante, je défends leurs droits. Et puis dans la vie de tous les jours, avoir des attitudes discriminatoires. Autrement dit, il faut faire très 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 attention que les opinions ne sont pas des comportements.
Oui, d'ailleurs, on peut dire les choses dans l'autre sens, qui est plutôt encourageant, à savoir que des gens exprimeront des opinions racistes ou intolérantes vis-à-vis tel ou tel groupe, mais en situation concrète, se comporteront autrement que ce que leurs opinions laissaient à penser. Feront preuve d'humanité, d'ouverture d'esprit, de
absolument
générosité.
Il y a un très bel exemple. Il y a un très bel exemple, c'est un sociologue qui avait travaillé aux États-Unis dans les années 30, Lapierre, et à l'époque, il y avait un racisme contre les Asiatiques, contre les Chinois. Ils étaient venus nombreux travailler pour la construction des chemins de fer. Et là, donc, il se promène à travers tous les États-Unis avec un couple d'amis chinois. Ils sont reçus dans les hôtels, dans les restaurants pendant un mois. Ils circulent à travers les États-Unis. Il ne se passe rien. Et rentré chez lui, le sociologue écrit une lettre aux hôteliers et aux restaurateurs et il leur demande s'ils accepteraient un couple asiatique dans leur établissement. Et plus de 90% des réponses sont négatives. Ce qui veut dire qu'en face à face, avec un individu comme vous et moi, normal, il n'y a pas le racisme, l'intolérance, mais l'idée reçue, le stéréotype, ah, les Asiatiques, vraiment, ces gens-là, non, c'est pas bien dans mon établissement, la force du stéréotype apparaît là. Mais heureusement, là, les comportements étaient beaucoup plus ouverts que les opinions exprimées.
Je reviens sur le lien entre les choix politiques ou les orientations politiques et l'intolérance. On a souvent reproché à ceux qui insistaient sur le côté plus on est vers l'extrême droite et plus il y a de l'intolérance, de ne pas voir qu'il y a peut-être des symétries à l'extrême gauche. Est-ce que ce sont des choses que les sondages permettent de vérifier? Autrement dit, est-ce qu'on trouve dans l'extrême gauche, enfin dans les gens qui se reconnaissent dans des orientations d'extrême gauche, des positions intolérantes, peut-être raciste, peut-être antisémite, ou beaucoup moins, ou pas du tout?
Alors, on ne peut jamais, et ça c'est une autre leçon qu'on a quand on travaille avec les sondages, prendre en compte une seule caractéristique de la personne. Il ne suffit pas de connaître son positionnement à droite et à gauche. Il faut savoir si c'est un homme, une femme, quel est son niveau de diplôme, quelle est sa profession, quelle est sa religion. Et c'est seulement quand on a contrôlé l'ensemble de ces variables qu'on peut dire quelque chose. On voit, si on se contente de prendre les opinions politiques, que le niveau de tolérance remonte un tout petit peu à l'extrême gauche. Et c'est lié au fait que du côté de l'extrême gauche, il y a d'une part des intellectuels, des personnes diplômées qui, elles, ne donnent pas les réponses intolérantes, et d'autre part des personnes qui sont dans des situations plus difficiles, moins diplômées, et qui vont la donner. Et en ce qui concerne l'antisémitisme, là, il y a un grand débat sur les transformations de l'antisémitisme qui se parerait de l'idée, non, moi je ne suis pas du tout antisémite, j'ai rien contre les juifs, mais franchement, la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens et des territoires occupés, c'est un tolérable. Et c'est parfois une manière politiquement correcte d'exprimer son antisémitisme. Et on a travaillé beaucoup sur les questions concernant l'image d'Israël, la perception du conflit israélo-palestinien et les indicateurs classiques d'antisémitisme, les juifs, leur rapport à l'argent, leur pouvoir. Et paradoxalement, on voit que du côté de l'extrême gauche, c'est là que la critique d'Israël est nettement la plus forte. Mais c'est eux qui ont le niveau d'intolérance le plus bas, comparé à ceux qui sont à l'extrême droite. Autrement dit, il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme partout, mais il faut comprendre sa complexité. Et il n'y a pas, contrairement à ce qui a été dit, je pense à des débats avec Pierre-André Taguieff, une migration de l'antisémitisme de l'extrême droite à l'extrême gauche. Non, il y en a à l'extrême droite, il y en a à l'extrême gauche, il y en a quand même beaucoup plus au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est que dans l'opinion publique française, l'image d'Israël s'est considérablement détériorée depuis la guerre des six jours. À l'époque, il y avait une approbation unanime du petit État, c'était David contre Goliath. Maintenant, la situation s'est inversée.
Ce qui veut dire que les opinions que les Français expriment ici ont quelque chose de global, au sens de on fabrique ces opinions en regardant le monde et pas simplement son propre pays et en regardant ce qui se passe au Proche-Orient.
Absolument, et l'ombre portée est terrible parce que quand on fait des entretiens, beaucoup de personnes juives nous disent « mais on en a vraiment assez, on est interpellés sur la politique d'Israël, mais c'est pas nous et on n'approuve d'ailleurs pas, me disent certains, du tout cette politique, mais nous on est automatiquement assimilés à Israël ». Mais c'est exactement la même chose pour les musulmans en France aujourd'hui, perçus comme des terroristes, des proches d'Al-Qaïda, de l'État islamique. Donc l'ombre portée des conflits internationaux est terrible sur la perception des populations, des minorités en France aujourd'hui. Et du coup, il y a une peur, et dans la communauté juive, dans les communautés juives, et chez les musulmans, parce qu'il y a le sentiment qu'ils sont exposés à des ressentiments pour des choses dont ils ne sont absolument pas responsables.
Et ce genre de phénomène, de peur, d'opinion, disons, les sondages permettent, je vais les comprendre, à condition, c'est ça qui devrait vraiment être bien, bien expliqué, je trouve, à condition de savoir que c'est un outil complexe. On ne pose pas trois questions, est-ce que vous aimez les Juifs, est-ce que vous aimez les Arabes?
Ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. Non. On pose des ensembles de questions, C'est combien de questions qui permettent de cerner une personnalité ?
On les teste, on ne le sait pas à l'avance, et parfois on a des surprises. On pense que telle question va marcher dans un sens ou dans l'autre. Je vais vous prendre un exemple. On a beaucoup eu ces derniers temps du racisme contre les Chinois qui travaillent en France. Il y a eu même mort d'homme. Et on avait posé une question, avec, dans la liste des stéréotypes, on avait mis un stéréotype positif, parce que c'est ambivalent quelquefois. Prêter des traits positifs à un groupe peut se retourner contre lui. On avait mis les Asiatiques sont très travailleurs. Puis on avait mis aussi, à l'autre moitié de l'échantillon, c'était les Maghrébins sont très travailleurs. La réponse, c'était, on avait coupé l'échantillon
en
deux.
Quelle est votre opinion sur
cette... Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt pas du tout. Quand on pose la question, les Asiatiques sont très travailleurs, les trois quarts de la partie de l'échantillon à qui on l'avait posé nous disent oui, les Asiatiques sont très travailleurs, tout à fait ou plutôt d'accord. Mais ça, c'est corrélé avec un taux élevé de racisme ou d'intolérance à toutes les questions. Autrement dit, prêter ses traits aux Asiatiques n'est pas véritablement un stéréotype positif. C'est une manière de les rejeter, de les essentialiser. En revanche, ceux qui pensaient que les Maghrébins n'étaient pas du tout travailleurs, c'était eux aussi qui avaient des notes élevées sur l'échelle de racisme. Autrement dit, un stéréotype positif peut s'intégrer, et à notre surprise, dans une échelle d'intolérance à l'égard de l'autre. Et c'est pareil avec la perception des Juifs, le rapport à l'argent. Quand on fait des entretiens, les gens nous disent « Oui, mais bien sûr, ils ont de l'argent, mais c'est normal, parce qu'eux, au moins, ils travaillent. C'est un modèle. » Oui, mais ça peut se retourner contre eux. Je pense à l'affaire de l'enlèvement et de la mort de Ilan Halimi. Donc, méfions-nous des stéréotypes, même positifs.
Un échantillon, c'est combien de personnes, en général, pour ce genre de grand sondage ?
Au minimum, 1000. L'échantillon de la nationale... Ah, plus il y en a, mieux c'est. Moi, j'aimerais mieux 2000, mais c'est déjà beaucoup et c'est cher de faire un échantillon en face-à-face. Et moi, je trouve que le face-à-face a ses défauts. Ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est le biais de désirabilité sociale. Mais on a même des questions qui nous permettent de tourner ce biais de désirabilité sociale. En fait, on split l'échantillon, on le coupe en plusieurs parties. Par exemple, la dernière fois, on avait demandé « Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir parler librement ?» Et puis, à la deuxième partie de l'échantillon, on a rajouté l'islam. Et on voit que le taux de personnes qui disent que soit ça les met très en colère, soit le taux de personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas parler librement augmente. Simplement, elles peuvent le dire, parce que l'enquêteur ne sait pas quel est le thème qui les met en colère. Donc par là, on arrive très bien à cerner dans quelle catégorie de la population on a eu un biais de désirabilité sociale qui fait qu'elles n'ont pas répondu exactement pareil aux questions sur l'islam dans les questions plus directes.
1000 personnes. Imaginons que sur 1000 personnes interrogées, il y en ait quelques-unes d'extrême gauche pour prendre cette catégorie. Mais enfin, la population française se reconnaît dans l'extrême gauche à 5% par exemple.
Oui, imaginons. À peu près 5 à 10, ça dépend des moments.
Donc ça veut dire que là, l'échantillon qui apportera des informations est composé de une cinquantaine de personnes.
Absolument 60, oui.
C'est déjà pertinent, 50 personnes pour comprendre les logiques d'un ensemble aussi large d'un
Alors, il faut faire très attention dans les sous-échantillons, et c'est pour ça que là aussi, nous avons plusieurs indicateurs. On n'a pas simplement le positionnement sur la classique échelle gauche-droite. On a la sympathie partisane. On a le vote aux dernières élections. Et puis, on a toutes les autres questions. Si j'ai... Là encore, ça fait sens à partir du moment où on teste l'effet de l'orientation partisane ou de la sympathie partisane, une fois qu'on a contrôlé toutes les autres variables. Mais il faut faire très attention, bien sûr, je ne peux pas aller très loin sur 50 ou 60 personnes.
Ces méthodes permettent de mesurer l'opinion à un moment donné et de comparer dans le temps. Est-ce que ça permet aussi de comparer dans l'espace avec d'autres pays ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des enquêtes comparatives européennes, par exemple, qui permettraient de dire quelque chose comme, j'ai très peur de formuler les choses ainsi, les Français sont plus ou moins racistes que les Espagnols, les Italiens sont plus ou moins racistes que les Anglais, etc. Est-ce que ce genre de comparaison fait sens ?
Ce genre de comparaison fait sens, mais certainement pas la conclusion que tu en tires. Les Français sont plus racistes qu'eux, parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça dépend du moment où on fait l'entretien, du type de question. Mais oui, il y a énormément d'enquêtes comparatives. J'avais participé à l'une d'entre elles lancée par les Allemands dans 8 pays européens, qui s'appelait Group Focused Enmity, c'est-à-dire l'inimitié envers les groupes. Et ce qui est rassurant pour l'esprit, il y avait la France dedans, il y avait l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, et il y avait aussi deux pays de post-communistes, la Hongrie et la Pologne. Donc c'était vraiment intéressant, c'était les mêmes questions, exactement. Et l'hypothèse de départ était que le rejet de l'autre, c'est pas simplement le rejet des minorités ethniques, des gens définis par leur origine ou leur religion, mais il y avait aussi un lien avec le sexisme, c'est-à-dire l'idée d'attribuer aux femmes une place inférieure dans la société, avec l'homophobie, le rejet des homosexuels, des gays, des lesbiennes, le rejet des SDF. Et effectivement, on a trouvé un syndrome d'attitude. Il y a un rejet de l'autre, ça forme un tout cohérent. Et c'est pareil dans tous les pays. La structure des réponses est la même. Le niveau, on se tient un petit peu dans les différents pays. Il y a un pays à l'époque, c'était les Pays-Bas, qui était plus tolérant sur toutes les questions à ce moment-là. Bon, ensuite, c'était en 2008, on a vu monter le rejet de l'islam sous d'autres formes. Donc ça bouge dans le temps. On ne peut pas décider une fois pour toutes que la France ou l'Italie. Un autre exemple, l'Italie à un moment était un pays où il y avait très peu d'immigration. C'était un pays d'où l'on émigrait. Et puis progressivement, c'est devenu un pays d'immigration. Et on a vu monter le rejet des immigrés, alors qu'il y a 20 ans, c'était un des pays où le taux de rejet des immigrés était le plus faible de toute l'Europe. Autrement dit, oui, on peut comparer, mais ça varie. Juste un dernier point, en Pologne et en Hongrie, il y avait un niveau de rejet des Juifs absolument massif. Ils étaient à 40 points au-dessus de la moyenne sur une échelle d'antisémitisme comparée à tous les autres pays de l'échantillon. Donc là, il y a un poids de l'histoire. Autrement dit, oui, on peut comparer, mais il faut prendre en compte beaucoup de paramètres.
J'ai une dernière réflexion à te demander. Les sondages, ça coûte de l'argent, et donc il faut pouvoir les payer. Et si on finance des sondages, c'est qu'on pense qu'ils ont une certaine utilité. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire à partir des sondages, en dehors du fait qu'on peut se dire qu'on comprend mieux tel ou tel problème et qu'on a une satisfaction, disons, de type intellectuel? À quoi ça sert? Qui va s'en servir? Est-ce qu'il faut les démultiplier? Est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus? Quelles sont les institutions, les acteurs, les responsables, les ONG, etc., qui font quelque chose des sondages en dehors d'informer?
En tout cas, pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut multiplier les manières d'aborder la réalité. Le sondage en est une. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas toujours la meilleure, mais je pense que c'est un élément d'information important dès lors qu'on veut généraliser. Parce que l'avantage d'un sondage, c'est comme un échantillon, un sac de billes, vous avez des billes noires et des billes blanches. Si vous voulez savoir combien il y a de billes noires par rapport aux billes blanches, il faut en tirer un certain nombre. Là, c'est pareil, si vous pouvez faire des monographies excellentes dans une communauté, dans un petit groupe, et là, le sondage ne vous servira à rien. En particulier pour travailler sur le racisme intergroupe, entre minorités, intercommunautaire, justement parce qu'il pèse peu dans les sondages. Mais quand vous voulez comprendre la manière dont une majorité de Français voient leur minorité, alors le sondage est un instrument indispensable. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est savoir qu'il y a des manières d'améliorer les sondages, avec des questions ouvertes, avec l'utilisation du sondage pour faire des expérimentations sur la formulation des questions, parce qu'on voit très bien que la formulation est importante. En mettant des photos, on peut se servir de plusieurs techniques de sondage. Moi, j'aime bien le face-à-face, parce qu'il permet de prendre son temps, d'être dans une relation, une interaction avec la personne. Au téléphone, ça va très vite. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus des sondages en ligne, où là, la personne est toute seule face à son ordinateur, peut se lever, aller faire autre chose, lire un bouquin, être moins concentrée. Et on voit bien qu'il faut panacher ces trois techniques parce qu'elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage des sondages en ligne, c'est qu'on peut montrer des photos, faire réagir. Donc c'est très maniable comme instrument. Je pense qu'il faut faire les trois. L'expérience a montré que les sondages aujourd'hui, si on fait une seule technique, ils ont leurs limites. Donc c'est une technique à utiliser avec précaution. Il faut faire de la méthodologie mixte si on veut arriver à comprendre quelque chose, mais je pense qu'on en a vraiment besoin.
On dit que les statistiques ethniques sont un problème.
Je ne sais pas ce que c'est que les statistiques ethniques.
Autrement dit, le recueil de données sur les caractéristiques religieuses, culturelles, peut-être de couleur de peau, ce genre de choses. Et donc, est-ce qu'on pourrait te demander, est-ce que le débat qui existe en France sur ces affaires-là, qui ressurgit périodiquement, mais qui était très fort vers les années 2007-2008. Oui. Est-ce que ce débat pèse sur la fabrication des sondages sur le racisme et l'antisémitisme, ou est-ce qu'on, ou est-ce que c'est une question très éloignée?
Non, on fait très attention à la manière dont on pose la question, parce qu'il y a un débat et parce qu'en France, on est particulièrement sensible à ces questions, parce qu'on a une tradition laïque qui fait que l'on veut connaître des individus, mais pas les distinguer en fonction de leur origine, de leur couleur de peau et de leur religion. Mais autrement dit, quand on parle de statistiques ethniques, je dirais qu'il faut être très, très, très prudent. Quand un recensement officiel demande ces choses, non. Là, ce n'est pas le rôle de l'État de demander quelle est la religion d'une personne. Mais nous, dans nos sondages, ce sont des sondages qui sont totalement anonymes. Nous ne faisons pas un fichier ensuite qui nous permet de reconnaître ou d'identifier des individus. Donc, on peut leur demander leur religion, leur origine, et nous ne faisons pas des statistiques ethniques, puisque nous n'avons pas un fichier qui nous permettrait ensuite d'utiliser ces données. Et nous le faisons, et nous faisons très attention à la manière dont nous posons ces questions, pour qu'elles ne soient pas offensantes. Mais je pense que si on veut comprendre la société dans laquelle on vit, les discriminations vécues et ressenties, il est important de savoir si la religion, l'origine, compte tout autant ou plus que la profession, le niveau de diplôme, le genre.
Donc les sondages ne s'interdisent pas de poser certaines questions à des fins purement explicatives et surtout pas évidemment à des fins de fichage d'un type ou d'un autre.
Nous les posons depuis très longtemps, ces questions.